Où vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons une stagiaire qui est Maëva. Elle est élève journaliste à l'école de journalisme et elle vient sur un sujet qui l'intéresse particulièrement et qui est évidemment un des sujets phares de cette émission, le logement. Et c'est un sujet qui vous concerne tous. Alors, Maëva va me poser quelques questions et je vais essayer d'y répondre sur les questions du logement.
Bonjour Jean-Pierre, merci de m'accueillir aujourd'hui dans ton émission. Alors, ça fait quelques semaines qu'on s'interroge de plus en plus sur cette crise du logement, mais elle ne date pas d'hier. Comment tu pourrais expliquer comment on aurait pu prévoir cette crise ?
Alors, effectivement, aujourd'hui, on a vu dans la presse apparaître des articles sur la crise du logement et la situation est complexe pour tous les métiers du bâtiment qui vont à la fois des notaires, des agents immobiliers, les architectes, les bureaux d'études et bien entendu les entreprises. Alors, cette crise, c'est le renchérissement des logements pour les classes moyennes et c'est un véritable problème. Donc le rôle d'un État, c'est d'assurer le logement de ses administrés, de ses habitants. Et s'il y a des événements dans la vie qui sont imprévisibles, une épidémie comme on a connu récemment, il peut y avoir aussi une guerre dans un pays lointain ou voisin, c'est des choses que l'on ne maîtrise pas. Mais là, dans ce cas-là, alors je ne peux pas jouer les prophètes, mais cette crise, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, mais il y a des années que je dis que toutes les conditions sont réunies pour que on ait une crise, et une crise de logement, elle se change pas en quelques minutes. Alors Maëva, je vais essayer d'expliquer ce qui me paraît être les causes majeures, mais dans ton entourage, tu dois voir, ou même pour toi ou pour tes amis, voir le prix des locations qui augmente, ça doit être quelque chose de me semble-t-il.
Oui, évidemment, même moi, comme je suis étudiante, je vois bien, il y a de plus en plus de mal à trouver un logement, mais je parle parce que c'est ma situation, mais évidemment, ça touche tout le monde, cette crise, pas seulement la France, mais aussi l'Europe.
Oui. Alors, ça touche l'Europe, mais on a tendance aussi, comme les déficits de notre pays, à se dire « bon, c'est un problème européen ». Non, il y a aussi un problème spécifiquement national. Alors, c'est vrai que tu as raison, il y a un problème européen, et on peut dire, que je dirais à la politique de l'Europe. Alors, je ne vais pas me mettre l'étiquette d'être anti-écologiste, mais je pense qu'il y a dans une vision punitive de l'écologie, en tout cas une instrumentalisation de l'environnement et de l'écologie, des astreintes et des contraintes qui ont été imposées aux constructeurs en général et qui ont fait que, d'une part, on a eu une pénurie de main-d'œuvre, une pénurie de foncier très importante, et on a eu de plus une série de réglementations, et notamment les réglementations énergétiques qui, avec les meilleures intentions du monde, mais on le sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions, avec les meilleures intentions du monde, on se trouve avec des contraintes constructives qui sont qui renchérissent le coût des constructions, qui allongent les délais d'instruction, qui mettent en branle une technostructure avec des réglementations qui s'empilent et qui deviennent de plus en plus complexes pour tous les acteurs du bâtiment. Et en fait, les conditions sont réunies. Et on avait, ces dernières années, comme pour le budget de la France, on vivait avec une inflation zéro et des prêts très très bas. On sait très bien que ces périodes-là sont des périodes transitoires et qu'on revient vite avec des taux de rémunération des emprunts, on peut dire, normaux. Et aujourd'hui, on se retrouve avec en pleine figure un déficit de 3000 milliards, bon, même si mon sujet ici n'est pas de traiter de l'économie, et effectivement, autant l'État va c'est-à-dire l'État c'est nous, va être obligé de payer des emprunts 100 milliards par an pour d'intérêts d'emprunt, mais également les banques sont de plus en plus frileuses pour financer les particuliers, et donc les couches moyennes ont de plus en plus de mal à se loger. Alors, pour reprendre ce que tu dis sur les locations, il est évident que du moment que la raréfaction va se créer, on a un renchérissement des loyers et donc des problèmes sociaux et des problèmes budgétaires pour les familles, non seulement pour les jeunes ménages aussi, mais aussi pour les familles et pour les personnes déjà, enfin pour toutes les classes sociales, à part évidemment des gens qui échappent à cela. Alors voilà, donc c'est une situation assez dramatique.
Oui, on parle de location. Est-ce que tu trouves que l'augmentation des locations Airbnb, tout ça, est-ce que tu trouves que ça freine et ça augmente cette crise ?
Alors là, ça me semble un phénomène assez marginal, c'est-à-dire qu'il apparaît avec la réduction de l'offre. Il y a eu la transformation dans les quartiers historiques notamment, pour des questions de solvabilité et de gains rapides, pour cela. Alors évidemment que si on avait compensé cette solution touristique qui est intéressante, parce que le tourisme nous amène des devises, mais il se trouve qu'effectivement aujourd'hui, le fait qu'il y a de moins en moins de mises en chantier, R&B, enfin ces logements qui sont faits pour des séjours de courte durée, ils impactent les logements de longue durée et ça devient un vrai problème. Mais là aussi, c'est qu'un des effets secondaires, me semble-t-il.
Ça va surtout, oui, bien sûr, mais on pense aux étudiants qui vont venir étudier à Paris, qui vont se retrouver au milieu de tous ces touristes qui viennent assister au JO. Tout ça.
Alors là aussi, moi, le problème du logement étudiant, je veux pas faire de la préhistoire, mais au moment du plan Jospin dans les années 95, il y avait la mise en chantier de logements étudiants et de logements étudiants notamment sur les campus. Et ça a été fait à ce moment-là, et on aurait dû continuer. Je pense que la France, pour parler du problème étudiant, qui est un véritable problème et qui est assez inadmissible pour un grand pays comme le nôtre, qui prétend pouvoir attirer les jeunes du monde entier et d'avoir d'être un pays phare à ce niveau-là. Bon, il faut loger les gens. Il faut loger les gens, les chercheurs, les implantations industrielles, elles sont liées au logement. Et pour les universités, si on n'est pas logé, on ne peut pas aller à l'université de son choix. Alors, Le modèle qui était assez simple, c'était la construction sur les campus où il y a de la place, mais on peut dire que cela s'est arrêté par manque de volonté politique et aussi parce que, encore une fois, on a parlé de la non-artificialisation des sols et ça, c'était devenu une espèce de priorité nationale où il ne fallait pas utiliser les sols. Alors on avait l'impression que la France, c'était Monaco, qui avait Monaco, il y a 35 hectares, et effectivement, on a une pénurie de terrain. Mais la France est un grand pays avec des terres naturelles, des terres agricoles, l'agriculture a des problèmes, mais il n'y a pas des problèmes d'urbanisation qui leur mange les terres. Et tout ça, ce sont des fantasmes de bobos urbains et qui ne se reflètent pas du tout la réalité. Bon, de plus, les constructions, entre de construire de n'importe où, n'importe comment, et une planification avec une densité convenable, on est tout à fait possible. Mais on a aujourd'hui des gens qui disent qu'il faut arrêter donc de construire du neuf et que la solution, c'est la réhabilitation. Ce qui, évidemment, est totalement faux parce que la réhabilitation ne peut pas du tout être suffisante pour les catégories dont on a parlé et comme tu en parles, Maëva, des logements étudiants notamment.
Et toi, du coup, Jean-Pierre, comment t'imagines la ville de demain ?
Alors, la question de la c'est l'interrogation où vivrons-nous demain, qui était, comme je le rappelle souvent, ironique, parce qu'en fait, on n'a pas du tout prévu dans l'après-guerre la réalité de ce qui allait se passer et que l'on était dans des grandes utopies. Alors, on est passé d'une époque des utopies à la fin des utopies. Bon, on l'a, je crois, en politique, mais on est passé sur aussi de ne rien faire. Alors, entre des projets mirifiques où on allait construire des villes flottantes, des villes sous dômes, ou des villes souterraines, enfin, des choses extravagantes, et une solution qui est on va réhabiliter l'existant, tout en ayant la population qui a ses besoins. Il y a l'immigration qui demande à être logée, mais il y a aussi les jeunes générations, et puis il y a aussi la durée de la vie des gens qui fait que la libération des loyers parce que les gens mouraient tôt, aujourd'hui les gens continuent à vivre et ne libèrent pas leur loyer. Ça, c'est une réalité du monde d'aujourd'hui. Donc la ville d'aujourd'hui c'était un idéal, c'était la ville ancienne, mais la ville ancienne, on sait qu'aujourd'hui elle est appropriée par les classes les plus aisées, les riches, on peut dire, de fait, de l'augmentation à la fois du foncier, à la fois des logements, des prix de logements en vente et par voie de conséquence des loyers. Donc, la solution, c'est deux choses opposées. C'est d'une part, deux choses qui sont que l'on oppose, mais que l'on caricature. C'est la maison individuelle. Alors, la maison individuelle présentée comme l'horreur écologique. Et puis, les grands ensembles qui sont effectivement tout ce qu'on a pu entendre, c'est les lieux de l'enfermement, les ghettos. On emploie tous les vocabulaires les plus négatifs par des gens d'abord qui y mettent jamais les pieds, qui n'ont pas vu du tout les rénovations et qu'il y a beaucoup d'appartements qui sont de qualité, des immeubles de qualité, mais on confond des problèmes sociaux, les problèmes de la drogue, les problèmes de la sécurité, avec les problèmes architecturaux. Et quant à la maison individuelle, on est aussi sur des fantasmes de maisons construites de mauvaise qualité, comme il a pu y en avoir à un moment donné, avec de la préfabrication. Mais la clé de tout cela, c'est que tout soit pensé. Et que s'il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes par l'absence de planification. Alors la planification, ça veut dire planifier, ça veut dire prévoir demain. Ça veut dire qu'on pense les choses en amont. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. Alors on l'a perdu sur le plan de l'économie. Je rappelle encore l'histoire des 3000 milliards, c'est-à-dire que notre économie n'est pas planifiée. On a ouvert le carnet de chèques pour différentes raisons, et notamment pour l'écologie. On fait des aides pour les voitures électriques, on fait des aides pour la rénovation. En soi, on ne peut pas dire que ce soit mal, mais le problème, c'est que on accumule des choses dont l'utilité ne me paraît pas première, et au détriment justement d'un investissement sur une planification. Alors planifier, c'est quoi ? Bah, c'est prévoir les investissements, et notamment sur un problème des plans, et là je reviens à mon métier d'architecte, c'est faire des plans, et c'est faire des plans d'urbanisme, c'est dire oh, ces horribles banlieues où il y a des entrepôts et des commerces, il faut détruire tout cela pour... mais non, simplement, on ne l'a pas planifié. Et ce n'est pas la faute des commerces qui se sont implantés hors des villes, un peu n'importe comment. C'est parce que justement, on ne leur a pas créé des places, des avenues, des plantations et des ensembles harmonieux où on retrouve ces commerces avec des zones d'habitation, et que même si on a quelques quartiers à Toulouse qui ne sont pas trop mal arrangés, je parle de Bordeaux Rouge, quelques quartiers et des extensions, mais la plupart du temps, il n'y a pas cette vision. Et les maires eux-mêmes ne parlent que des réaménagements en centre-ville, et on n'a pas comme débat, justement, ces quartiers qui ne sont pas périphériques, qui sont là où la majorité de la population vit. Donc, ce que j'aimerais, à titre personnel, c'est que justement, dans le débat public, reviennent non plus les anathèmes de « il ne faut plus qu'il y ait de terrain constructible », ce qui est une folie totale, qu'il faut que réhabiliter des maisons, qui est une deuxième folie, que les bâtiments doivent être des bouteilles thermos parce que la planète va mourir à cause de cela, et qui est la troisième folie, en plus de ça, qui est une bêtise absolue, et qu'on en revienne à de la raison. Et la raison, c'est justement qu'il y ait un débat démocratique, alors que les gens aussi, dans une société, aient la liberté que l'on puisse, au cours de sa vie, avoir, quand on est jeune, avoir envie d'habiter dans des résidences étudiantes ou dans de l'habitat communautaire. Et puis, après, quand on fonde une famille, on peut avoir envie, avec des enfants petits, d'habiter dans une maison un peu plus loin que le centre-ville, mais il faut dire aussi que les centres-villes ne sont plus les lieux où on travaille. Donc le centre-ville est moins important. Donc on peut renforcer les villes moyennes et les petites villes. Donc il y a toute une politique de réurbanisation de la France avec les nouvelles implantations, avec le télétravail qui peut être mis en œuvre, et de cela, écoutez, je suis désolé, mais on n'en parle pas parce qu'on est sur ces phobies de il faut surtout ne pas préserver les terres, etc. Et ce véritable débat, qui est le débat qui intéresse les gens, parce qu'on sait que l'habitat, c'est la préoccupation majeure d'un étudiant comme toi, Maëva, mais d'un jeune couple, et aussi des personnes tout au long de leur vie. Et il faut retrouver ce débat, et hors de mon émission « Ouvrirons-nous demain à Esprit Occitanie », mais qu'on le retrouve dans la cité et dans la presse. Et on doit remercier Esprit Occitanie d'avoir une émission comme celle-là où on peut débattre de ces sujets. Donc, le maître, le logement et évidemment l'urbanisme et l'architecture dans le débat public. Alors justement, je te vois intéressée par ce sujet, Maëva. Ça pourrait être dans ton orientation future de futur journaliste, une spécialisation qui t'intéresserait, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr. Surtout que le logement, ça concerne tout le monde. Hein. Tout le monde doit se loger. Et puis oui, c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne et d'informer les gens. D'informer, c'est important.
Mais oui, voilà, donc tu as, je pense, aujourd'hui, il y a de moins en moins de journalistes qui sont spécialisés dans ces domaines. Il y a, par exemple, Frédéric Edelman qui est mort récemment, mais je ne le vois pas remplacer. Et donc, il y a certainement des jeunes journalistes qui devraient remettre ça sur le débat public. Et on est très content de t'avoir ici et que si ça pouvait t'inciter vers une spécialisation, on en serait très heureux ici à Radio Esprit Occitanie.
Oui, merci beaucoup Jean-Pierre de m'avoir accueilli au sein de ton émission.
Eh bien écoute, c'était un grand plaisir Maëva. C'était « Où vivrons-nous demain ?» Une émission de Jean-Pierre Estrampe. Avec aujourd'hui Maëva, qui est journaliste stagiaire à Radio Esprit Occitanie, et toujours à la technique, l'excellent Léo.